RFI.
5h42, 4h42 en temps universel. Restez avec nous, bien sûr, dans quelques minutes. Oh, quelle est chère la vie, surtout quand on doit faire face, comme les fidèles musulmans, à l'inflation pendant ce mois de Ramadan. On le verra avec notre reportage du jour au Tchad, où le prix des denrées alimentaires a grimpé. Et tout comme en Tunisie, où les vêtements deviennent de plus en plus onéreux. Alors les Tunisiens se tournent vers le marché de la seconde main. Ce sera notre dossier Afrique Économie. Notre invité, le Gabonais Alain-Claude Billy Binze, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo, candidat pour la présidentielle du 12 avril pour laquelle il sera face au président de la transition. Qu'est-ce que la richesse? Le billet d'humeur de Charlotte Ntamack est à suivre également sur RFI, mais d'abord, c'est l'heure des sports. Et c'est avec vous Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Du foot pour débuter, et c'est désormais confirmé, la CAN U20 n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire.
La Confédération Africaine de Football l'a entérinée hier en raison, je cite, de circonstances imprévues. Dans la foulée, l'Égypte a été désignée nouveau pays organisateur. En conséquence, l'équipe U20 de Côte d'Ivoire est disqualifié. Retour à la case départ d'une certaine manière pour des éléphantaux pas qualifiés à l'origine mais qui avaient obtenu le droit de participer en tant que pays organisateur avant finalement donc de devoir renoncer, d'où l'amertume du sélectionneur ivoirien Younes Zerdouk, joint par Yoann Gourlet.
C'est un sentiment qui est mitigé parce qu'en fait on n'était pas qualifié dès le départ. On a travaillé très très dur pour saisir cette nouvelle opportunité. On a travaillé très 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 dur pour créer un groupe et ça portait ses fruits et on commence à créer quelque chose de magique. Après voilà, c'est comme ça. Si le gouvernement ou l'État s'est retiré, c'est qu'il avait des raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se qualifier. Il n'y aurait eu aucun souci. Donc un peu de tristesse, oui, pour les joueurs aussi. J'ai pas eu contact avec les joueurs pour l'instant. J'imagine que leur tristesse, leur déception, parce que ce qu'ils ont montré dans les matchs amicaux, où on a gagné 3 matchs sur 4, donc c'était vraiment de très très bonne augure, surtout 3 matchs de suite, quoi. C'est un rêve un petit peu qui s'envole, mais il y a d'autres rêves à aller chercher.
Younes Zerdouk avec Yoann Gourlet. La précédente CAN U20 en 2023 avait déjà été organisée par l'Égypte.
La Confédération africaine qui a décidément du pain sur la planche, Antoine, avec l'ouverture d'une enquête concernant des soupçons de matchs truqués.
À cause d'une vidéo devenue virale qui montrerait le gardien international kényan Patrick Mathès assis en pleine discussion avec un homme non identifié d'un projet de trucage de match. Parmi les rencontres où un doute pourrait subsister, celle du Cameroun en octobre dernier, perdue par le Kenya 4-1. La fédération kényane a donc ouvert une enquête auprès de la CAF et de la FIFA pour démêler le vrai du faux.
Et on termine avec le foot en Europe. Victor Boniface à la croisée des chemins.
L'attaquant du Bayer Leverkusen, grand artisan du titre de 2024, a rétrogradé dans la hiérarchie. Le Nigérian, auteur de prestations moins abouties, et bien moins en vue depuis son transfert avorté vers l'Arabie Saoudite, Sofiane Amazian.
Interrogé en début de saison sur son club de rêve, Victor Boniface se voyait déjà briller chez un cador en Espagne. À 24 ans, le longiligne buteur nigérian doit peut-être revoir ses prétentions à la baisse, car cette année, l'aventure au Bayern n'est pas aussi douce qu'il y a quelques mois lorsque les protégés de Xabi Alonso ont soulevé le titre national pour la première fois. Mis en concurrence sur le front de l'attaque, le natif d'Akouré n'a plus le même rendement, 22 buts et 14 passes décisives la saison dernière, toute compétition confondue, seulement 10 réalisations depuis août dernier. Les raisons, après un début de saison canon, une blessure aux ischio-jambiers l'éloigne des pelouses allemandes pendant un petit moment, puis des envies d'ailleurs. Cet hiver, l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux. Al Nasser, où évolue Cristiano Ronaldo, est prêt à mettre 60 millions d'euros sur la table. Les deux parties discutent, se mettent d'accord, mais retournement de situation, le club saoudien jette son dévolu sur le buteur colombien d'Aston Villa, John Duran. Victor Boniface a dû se contenter d'un rôle de remplaçant lors des 5 derniers matchs de Bundesliga. Aucun but depuis près de 2 mois, muet également durant la trêve internationale du mois de mars. La disette est longue, trop longue, un déclic est attendu pour ne pas quitter les Leverkusen en fin de saison par la petite porte.
Et le Bayer de Victor Boniface qui compte 6 points de retard sur le Bayern de Munich et qui ouvre le bal de la 27e journée de Bundesliga en recevant Bochum. Coup d'envoi 19h30 temps universel.
C'est bien ça Antoine Grenier, le résultat ce sera bien sûr sur RFI.fr. À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h46 en temps universel, on jette un coup d'œil sur l'actualité internationale et cette quarantaine de journalistes, 12 médias différents dont RFI et le collectif Forbidden Stories qui continue de vous révéler les crimes et les menaces qui pèsent sur les journalistes palestiniens couvrant la guerre dans la bande de Gaza. Enquête ce matin sur ceux qui tentent de documenter les destructions dans l'enclave palestinienne en filmant depuis le ciel et via des drones les bombardements israéliens et leurs conséquences. Le Gaza Project, enquête en deux volets que vous retrouvez déjà sur RFI.fr. Twitter et nos réseaux sociaux. Les alliés européens de l'Ukraine qui se disent unanimement opposés à la levée des sanctions contre la Russie. Une trentaine de pays étaient représentés hier à Paris autour de la France et de la Grande-Bretagne. Initiative parallèle à celle que mènent les États-Unis via les rencontres indirectes en Arabie Saoudite. Passe d'armes verbales entre les États-Unis justement et le Venezuela. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, s'est rendu hier au Guyana, petit pays sud-américain aux immenses réserves de pétrole sur lequel le Venezuela semble entretenir des prétentions territoriales. Mais toute attaque de Caracas se terminerait mal, dit le diplomate américain. Imbécile, personne ne menace le Venezuela, lui répond le président Maduro. On la constate quasiment chaque année pendant le mois de Ramadan, l'inflation qui pèse sur le portefeuille des fidèles musulmans en ce mois sacré. On le voit ce matin encore dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Malgré un appel le mois dernier du ministère en charge du commerce pour maintenir des prix bas, les habitants ont tout de même vu le prix des denrées grimper en flèche. C'est notre reportage du jour sur place signé Nadia Ben Mahfoud.
Dans la petite cour d'une concession de Clémat à N'Djamena, Camis et sa fille Haché se préparent à aller au marché. Ils sont 8 dans la famille, sans compter les amis et les voisins qui se joignent à eux tous les soirs pour l'iftar. Ils doivent donc composer avec la hausse des prix de certains aliments.
Cette année, c'est mieux. C'est l'huile qui a augmenté. L'huile était chère, de 10 litres. Avant, c'était à 22 000. Maintenant, c'est 32 000.
Et le reste, la viande, les légumes?
Non, la viande, légumes, là, c'est pas changé. Même chose, pas changé.
Mais moi, on me dit que c'est quand même assez cher.
Oui, mais c'est pas, non. C'est qu'au marché, il y a un autre prix. Tu viens à Diguel, autre prix. Tu viens à marché du Mille, autre prix. Chacun met ce qu'il veut.
Est-ce que ça vous pousse à réduire un peu votre panier?
Ça ne réduit pas. Ça ne réduit pas. Donc, c'est le seul mois, donc on va faire tout le moyen possible, c'est ça.
Le matin, le marché central de N'Djamena grouille de monde. Amira se faufile entre les étals. Elle s'arrête devant un boucher.
La viande, ça va.
C'est pas très cher, c'est le poulet qui est cher. Pendant le ramadan, tout a augmenté.
Un peu plus loin, on retrouve Abiba. Elle est vendeuse de poulet et selon elle, c'est tout l'inverse. Les prix ont même diminué.
Le ramadan a commencé, là, on nous a diminué ça à 24 000. Oui. Nous, on vend à 3 000, 2 750.
Mais moi, j'ai rencontré des clients qui m'ont dit que le poulet était très cher cette année.
Là-bas, là, c'est poulet naturel, poulet de village. Donc, on vend ça cher. 1 kg 100, là, on vend ça à 3 000, 2 750. Et là-bas, poulet de village, là, c'est à 3 500.
Même si les prix ont moins augmenté cette année, pour cette mère de famille de 22 ans, l'enveloppe dédiée aux courses a malgré tout plus que doublé, alimé.
Donc c'est comment le budget pour une famille par jour?
Je peux dire 10 000, 15 000.
Alors qu'en temps normal, c'est combien?
En normal, je peux dire 5 000.
Ah oui, donc c'est fois 2, fois 3. Comment vous faites?
Alhamdoulilah, on gère.
La prochaine grosse dépense sera celle des cadeaux et des nouveaux vêtements pour l'Aïd El Fitr qui viendra clore ce ramadan dans quelques jours. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Un reportage à retrouver, à partager bien sûr sur Internet. Il est candidat, lui aussi, pour la présidentielle du 12 avril, censé refermer la transition gabonaise. Après avoir reçu Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui a mené le coup d'État contre Ali Bongo, on l'a reçu avant-hier, eh bien on reçoit ce matin sur RFI celui qui est sans doute son principal challenger, Alain-Claude Billy Binzé, qui fut, lui, le dernier Premier ministre du régime Bongo. Alors, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne, Christophe Boisbouvier lui a tout d'abord demandé si l'étiquette du régime Bongo n'était pas trop difficile à porter.
Ça aurait pu être compliqué en effet, mais aujourd'hui les Gabonais constatent que tous ceux qui ont accompagné Omar Bongo, Ali Bongo, dans le cas du régime dit Bongo PDG, sont aujourd'hui avec le dirigeant de la transition. Il s'agit donc d'une continuité de ce régime que les Gabonais détestent et qu'ils voient aujourd'hui ressurgir derrière les traits du CTRI. Le CTRI est une esbrouffe, le CTRI a menti aux Gabonais et derrière le CTRI, il y a le PDG.
Est-ce à dire que vous reniez votre propre passé et l'époque où vous avez été très longtemps dans les gouvernements d'Ali Bongo?
J'ai été 8 ans dans les gouvernements d'Ali Bongo, je ne renie rien de cela. J'ai reconnu qu'il y a eu des erreurs. erreurs qui ont été commises. Ce que je refuse, c'est de continuer le même système. Or, aujourd'hui, ce qui est en place, c'est la continuité du même système à tous les étages. C'est ce que j'appelle la République des copains, coquins et consanguins. Et je refuse cela.
Alors, certains observateurs disent que le général Oligui a volontairement écarté tous les poids lourds de la politique gabonaise, sauf vous. Parce que vu votre passé, vous ne risquez pas de le mettre en ballotage.
Il a écarté un certain nombre d'acteurs pour éviter le ballotage précisément. Je pense que d'avoir évité la candidature de Jean-Rémi Yama ou de M. Ongundu, ça a été une manière pour lui de s'assurer qu'il n'y aura pas un deuxième tour. Mais il se trompe. Ceux qui auraient voulu voter pour Jean-Rémi Yama ne voteraient pas pour lui. Ceux qui auraient voulu voter pour M. Ongundu ne voteraient pas pour lui. Aujourd'hui, je suis l'alternative unique qui reste aujourd'hui pour les Gabonaises et les Gabonais face aux militaires qui depuis 19 mois sont dans l'enfumage et le mensonge.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec Alain-Claude Billy Binzé, candidat pour la présidentielle gabonaise du 12 avril. Vous pourrez entendre cet entretien plus en longueur dans une cinquantaine de minutes. Et en attendant, notre rendez-vous avec l'économie sur un phénomène que l'on constate en Tunisie pendant le Ramadan. Pour l'Aïd, la tradition veut que les parents offrent de nouveaux vêtements aux enfants. Et si notre reportage tout à l'heure montrait déjà l'inflation sur les produits alimentaires au Tchad, eh bien, elle frappe aussi le textile. Mais les Tunisiens usent de débrouille. Ils se tournent plutôt vers le marché de la fripe, le marché de la seconde main. À Tunis, dossier Afrique Éco de Lilia Blaise.
Dans le centre de Tunis, quelques jours avant l'Aïd, Khadija Malige, mère d'une jeune fille de 10 ans, arpente le marché des fripes pour trouver la perle rare, une tenue complète pour son adolescente.
On est aux fripes de Haïa El Khadra à Tunis qui sont bien achalandées. Vous voyez, il y a plein d'étals de vêtements et moi je viens pour acheter les vêtements de l'Aïd pour ma fille, mais aussi des tapis, des descentes de lit, du linge de maison. Je viens ici parce que les prix sont beaucoup moins chers.
Les prix, ils sont beaucoup moins chers.
Avec un salaire moyen, son budget est d'environ 200 dinars pour sa fille, soit 60 euros. Mais cette somme couvre à peine le prix d'un vêtement neuf dans les grands magasins.
Surtout avec l'augmentation actuelle, moi ça m'arrange vraiment de venir ici aussi pour trouver des marques. J'ai fait un tour dans des grandes surfaces et 200 dinars ça couvre à peine le prix d'un pantalon. Alors qu'au fripe, je peux prendre plusieurs vêtements pour le même prix.
Plusieurs de bâche, 200 dinars.
Et la recherche s'annonce fructueuse pour elle et sa fille.
Elle a commencé dès qu'on est arrivé.
Elle a trouvé un sac, donc tant mieux. Elle a commencé avec les accessoires, il ne reste plus que la tenue. Et moi, je viens aussi pour lui trouver de nouveaux vêtements pour l'école, car les commerçants des fripes saisissent l'occasion de l'Aïd pour sortir un nouvel arrivage en fonction de la saison.
Et pour ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à chercher, les dépôts-ventes pullulent à Tunis ces dernières années. À Baby Troc, l'un des premiers à ouvrir il y a 10 ans, la fondatrice Olfa Barkeli gère une grande affluence avant l'Aïd.
Au début, ça m'a surpris de voir que les gens achetaient du deuxième main pour l'Aïd, parce qu'on est habitué à ce que les gens achètent du neuf. Et d'année en année, je voyais que les gens affluaient pour ça. C'est notre mois de travail. Voilà.
La clientèle est aussi à la recherche de marques étrangères ou importées, souvent introuvables en boutique.
Vous pouvez trouver du luxe ici. On peut trouver du Dior et du Dolce & Gabbana. On peut trouver ça à petit prix.
Si cette année, le début du mois a été difficile avec la nouvelle loi sur les chèques qui ne permet plus de faire crédit, la boutique ne désemplit pas à la veille de l'Aïd. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
(5h55 à Paris. Allez, avant de retrouver RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem, c'est l'heure de Charlotte Ntamack, comme tous les vendredis sur RFI. Charlotte qui nous apprend ce matin que la richesse est toute relative, car selon vous, il y a les riches, oui, il y a les pauvres, oui, mais il y a aussi les riches pauvres et les pauvres riches.
Oui, entre les notions de riches et de pauvres, on se perd parfois car il y a aussi les riches pauvres et les pauvres riches. Le pauvre riche, c'est ce pauvre que si l'on ne te dit pas qu'il est pauvre, tu le prendrais pour un riche. Je dis, ce n'est pas le type qui hier en boîte lavait les mains avec le champagne. Donc, il habite même au sous-quartier. Laisse, c'est un riche occasionnel. Quand tu le vois, c'est qu'il a un peu. Dès que l'argent qu'il a là va finir, tu vas encore le voir où? Il va seulement réapparaître quand il aura encore un peu. Le pauvre a compris que pour paraître riche, rien de mieux que le paraître. Man, tu gagnes autant d'argent. C'est seulement la vie de Pacha dans les hôtels et les voitures de location. Joe, tu sais que même quand tu es pauvre, si tu t'es déjà habitué à vivre comme un riche, quand tu deviens riche vrai, la richesse ne peut plus te surprendre. Hé, hey, Mako, moi je ne peux pas manger le caviar et boire le champagne alors que je ne sais pas si je peux encore m'offrir ça demain. Hein? Si ta co est lourde et qu'elle t'invite dans un restaurant de riches, ton problème c'est quoi? Mange seulement, hein? Laisse-nous les raisonnements du quartier là. Ça c'est la pauvreté d'esprit. Il y a des pauvres qui, à force de jouer les riches, commencent à se croire riches et d'autres qui inventent d'autres formes de richesse de consolation qui n'existent que dans le monde des pauvres. Ah, mon frère, même si je n'ai pas un franc, si j'ai la santé, j'ai à manger et je peux boire une bière, ce n'est pas la richesse. Mako, même comme je suis sans emploi, sans maison et sans mari, là, moi je ne suis pas pauvre. Hein. Mes 13 enfants, c'est aussi ma part de richesse, non? Le riche pauvre, quant à lui, est un riche qui, malgré sa richesse, paraît pauvre. Je dis, hein, ça c'est même quel genre de riche, non? Avec tout l'argent là, il s'habille toujours comme s'il partait au champ. Hein? Vous êtes sûr que lui-même il est au courant qu'il est riche? Le riche pauvre, par sa chicheté, qu'il veut faire passer pour de la simplicité, manque de respect à la richesse et montre une mauvaise image du riche. L'argent souffre dans son porte-monnaie, étouffe dans son coffre-fort, suffoque dans son compte en banque. Mako, j'ai dit, hein, c'est même quel riche ça? Tu la vois entrer dans ta boutique, tu te dis que « Merci Seigneur, ma vie va changer ». Façon qu'elle discute les prix, même une pauvre ne discute pas comme ça. Dieu a même confondu la personne à qui il voulait donner la richesse là. Devenir riche, oui, mais pourquoi si c'est pour vivre comme un pauvre? Demeurer pauvre, d'accord, mais pourquoi pas vivre même pour un jour une vie de riche, hein? À vendredi.
À vendredi prochain, Charlotte Ntamack. On vous retrouve en effet toutes les semaines sur la Radio du Monde et tous les jours sur Internet. Ayez le réflexe, bien sûr, RFI.fr ou nos applications mobiles également, RFI et RFI Pure Radio. Allez, dans un petit peu plus d'une minute trente, ce sera le début d'RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem. Le temps pour moi de remercier Thierry Le Saint qui était à la réalisation derrière la vitre, Édouard Dupénoat qui était à la rédaction en chef, et merci à vous surtout pour votre fidélité. On salue ce matin Raja Bitendelo Winton qui nous écoute depuis Baraka au sud Kivu. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. On l'en remercie, ça nous fait plaisir. Excellente journée à tous, restez avec nous.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Le 7 octobre 2023, Dror Michani était en France lorsqu'il a appris les attaques en Israël. De retour dans son pays, il a consigné ses réflexions sur ce conflit sans fin. Un témoignage intitulé « Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre » dont il viendra parler en français dans l'émission.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Je vous amène à Ouida, au Bénin, pour vous raconter l'histoire des Agouda, cette communauté afro-brésilienne composée de descendants d'esclaves et de négriers. Conflits sourds, cohabitations bourreaux-victimes, questions foncières, héritages architecturaux, voyages sur les routes de l'esclave et ses mémoires douloureuses.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU. Sur RFI.